Bruxelles 92.1.
C'est bon, le changement d'heure est opéré. Il est 19h actuellement sur Radio Campus, nous sommes mercredi et c'est l'heure de retrouver votre Conspiration des planches, votre magazine critique des arts de la scène sur la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Avec moi en studio, Elisabeth, bonsoir.
Bonsoir et avec nous tous, Nicolas.
À la bonne heure évidemment, à la Mais bonne heure oui. Pour parler des pièces de la semaine, spectacles que nous avons vus et que nous allons commenter pour vous. Tout d'abord, un triptyque, le triptyque Pieuvre à découvrir au Théâtre National avec Françoise Bloch sur scène. C'est pas courant et on vous en expliquera les tenants et la raison et les tenants et aboutissants de cette présence de cette metteuse en scène sur scène. Nous irons aussi au Théâtre Le Public pour un face-à-face entre Stéphanie Blanchoux et Etique Elbaz dans le spectacle Peu Importe de Marius von Mayenburg. Nous irons voir encore ce que nous concocte ce drôle de couple qu'est Emmanuel Delerba et j'oublie son nom Antoine Guillaume au TTO, et puis nous parlerons de reprises et d'événements à venir aussi ou en cours dans la capitale.
Une semaine bien chargée en fait. Enfin, un peu comme d'hab, quoi.
Comme d'hab, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bien chargé, voilà une copieuse proposition dont nous allons vous parler actuellement. C'est, maintenant, pour ouvrir cette émission, c'est Pieuvre. Pieuvre, c'est 1, 2 et 3 parties, puisque c'est un spectacle aux multiples tentacules, comme nous dit Françoise Bloch, qui nous invite à... dans une enquête, en fait, une enquête au cœur de l'intime, de sa vie, intime de ses proches, de sa propre vie et de son propre art également et de sa méthode. On connaît Françoise Bloch comme metteuse en scène des spectacles documentaires, Money, Grow, Go, Point de rupture, qui ont été des spectacles qui dénonçaient et décortiquaient surtout des grands faits de société comme l'économie, le capitalisme, le néolibéralisme puissant. Bref, voilà.
Une réflexion derrière.
Une réflexion derrière, parce qu'elle a amené toujours avec ses comédiens, elle insiste beaucoup sur l'apport collectif, c'est-à-dire un amassement de matière, en fait, et puis on tire les fils et on essaie de trouver les récits qui sortent de tout ça et on essaie de construire une démonstration.
Et c'est un peu ça qu'on retrouve quand même dans sa démarche pour ce projet-ci.
C'est ce qu'elle a voulu faire.
Ouais.
Alors, quel est le sujet ? On comprend qu'elle va nous parler d'un homme. Un homme qui n'est plus là parce qu'il est mort, il est décédé, il s'est donné la mort, ça on l'apprendra également. Et on comprend aussi qu'elle le connaissait très bien, cet homme, qui faisait partie de son quotidien. Et elle dit, face d'abord, c'est un événement qui tétanise, je vais appliquer ma méthode théâtrale, c'est-à-dire je vais me renseigner, je vais lire beaucoup, mais je n'arrive pas, face à la pieuvre, donc à cet amas de matière que j'ai orchestré, je n'arrive pas à tirer les raisons, les tenants et aboutissants du raison pourquoi en fait, cet homme s'est-il donné la mort ? Et pourquoi aussi cet acte a eu lieu ? Qui est coupable, finalement ? Et c'est pour ça qu'elle part d'une phrase de Camille Toledo, qui, un auteur, donc, qui dit dans un de ses livres « Qui est l'assassin d'un homme qui se tue, finalement ?»
Voilà.
Et qui est l'assassin au singulier, au pluriel ? Voilà, tout ce qui se pose, est-ce que ce sont des personnes ? Est-ce que ce sont des actes ?
Est-ce que c'est une suite de système, circonstances Mais c'est aussi, quelque part, une mise à distance de la question. On va un petit
c'est
peu
par là qu'elle commence, en tout
oui,
cas.
Voilà.
Mais ça, c'est fort. Parce que, comme elle veut se distancier, c'est une metteuse en scène et une intellectuelle comme ça qui amène beaucoup par la sociologie les explications aux choses. Et ici, elle nous dit que ça ne l'a pas aidée dans ce problème-là. Mais en tout cas, au début, elle nous parle de cette enquête.
Voilà, c'est vraiment ça. Une enquête qu'elle mène avec notamment des illustrations, des photos.
Des photos du lieu où ça s'est passé, des objets qui étaient là dans la pièce à ce moment-là, des signes aussi et des références culturelles qui jalonnent qui peuvent expliquer. On parle de l'enfance de cet homme également. Qu'est-ce qui, dans son enfance, pourrait avoir conduit à ce geste également. Bref, on est dans quelque chose, c'est vrai, au départ de très froid, le problème est mis sur la table et disséqué, on va dire comme ça, mais sans projeter aucun récit, aucun imaginaire. On est vraiment d'abord dans quelque chose de...
Peut-être aussi préciser que elle se met elle-même en scène et que c'est un exercice auquel elle n'est pas habituée. C'est pas là où on la retrouve habituellement.
Et on la retrouve, j'ai envie de dire, dans toute sa fragilité de ne pas être habituée à cet exercice également et de voir, il y a des allées et venues dans le récit, le texte vient ou ne vient pas. Elle n'hésite pas à aller piocher des choses, mais elle n'hésite pas aussi à nous interpeller, voir ça va, vous comprenez, vous suivez mon cheminement, parce que elle est en difficulté, évidemment, aussi de ce récit. Et c'est ça qui est très interpellant au départ dans cette première partie. Alors ça, c'est la première partie. Puis, il y a une deuxième partie. La première partie s'appelle Trace.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'est-ce qui est resté de l'événement.
Qu'est-ce qu'on peut observer visu et en tirer comme conclusion.
Et la conclusion, c'est de dire, finalement, ce sont des traces aussi qui révèlent des fantômes. Mmh. Et c'est ça qui nous amène à une deuxième partie, qui est déjà plus poétique, et en tout cas qui va plus dans des imaginaires.
Le souvenir que j'en ai, c'est quelque chose de clairement onirique, avec... on a l'impression que les choses flottent, il y a un film, il y a toujours l'image qui est présente et toujours la mise en scène, donc la mise au plateau qui est présente aussi.
Parce que tout au long de son enquête, en effet, Françoise Bloch a été interpellée par des films et en fait elle dit... J'avais complètement un problème d'attention, j'arrivais plus à m'attacher à quoi que ce soit, mais parfois je mettais sur pause un DVD et bam... s'afficher, parce que c'est des films en anglais, le sous-titre, et elle dit « Cette phrase, c'est ça.
Ouais.
C'est ça qui m'a fait comprendre ceci. » Et elle va raconter notamment le film du fantôme de Madame Muir, notamment, qui va retracer cette deuxième partie pour aller convoquer des fantômes. Et est-ce que ce sera le fantôme de cet homme? Voilà, c'est un petit peu la question. Et ça, c'est encore une étape qui va nous laisser... avec très peu de réponses, très peu de pistes. Et du coup, dans la troisième partie, parce que c'est bien que tu dis que tu as vu les deux premières parties, parce qu'elles ont été présentées déjà au Théâtre Les Tanneurs. Maintenant arrive une troisième partie, une troisième couche, troisième tentacule.
Qui va clôturer la trilogie, en fait.
Elle ne dit pas que c'est clôturé totalement. Oui, donc voilà, parce qu'elle dit j'en ai énormément encore.
C'est vrai que...
voilà. Mais ici, dans ce troisième, elle fait appel à des comédiens qu'elle connaît bien, Jules Puy-Barreau et David Murgia. D'autres vont venir parce qu'ils s'alternent à un moment donné. Moi, je l'ai vu ceux-là, en tout cas. Et elle va un petit peu parler des tempêtes qui traversent les esprits.
Qu'est-ce
qui conduit aussi à tout ça? Et c'est pour ça que cette troisième partie s'appelle Tempête. Et avec ces comédiens qui vont revêtir un vêtement, qui vont prendre un accessoire qui rappelle ou qui appartenait à cet homme dont elle parle. C'est comme ça qu'elle le nomme, c'est toujours l'homme dont je parle, l'homme dont nous parlons. Mais elle retrace un récit, un intime et un portrait. Et ce qui est très fort aussi, donc on démarre dans une sorte de petite conférence gesticulée avec les photos dans un espace très réduit. Et ce qui est très fort au National, c'est qu'on est sur le grand plateau, mais dans une sorte de labyrinthe, comme un labyrinthe de l'esprit. Et dans chaque partie, on va se mouvoir comme ça dans un espace qui va de plus en plus
sourd. On est dans une sorte de labyrinthe, c'est ce qu'il y a sur le plateau.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous fait rentrer pas par l'endroit habituel. On arrive dans d'abord un petit espace, un petit gradin. C'est des jauges de 50 personnes où elle nous explique d'abord son récit avec ses photos.
Elle
nous dit on va passer un peu plus loin, donc on repart dans ce labyrinthe, on change d'espace, qui Mais nous réserve des surprises visuelles aussi.
Oui.
C'est-à-dire un plateau qui va s'ouvrir. Ouais. Et dans la troisième partie, il y en aura encore d'autres qui vont encore prendre plus d'ampleur et qui vont sans doute nous donner un peu plus de sens à la démarche, un peu plus de tentatives de réponse ou en tout cas de pistes,
ouais.
Mais qui, selon moi, doivent encore être creusées si elle veut atteindre une réponse. Et elle le veut-elle, finalement? C'est un peu...
Est-ce qu'il y a une réponse?
Voilà, c'est ça. C'est un petit peu la
question. C'est aussi une autre question. Je crois que tu es sorti bien enthousiaste de cette expérience.
Qui c'est en tout cas une traversée.
Oui, c'est ça, au niveau du timing, parce qu'on n'est pas là pour 50 minutes chrono. Là.
Non, alors, c'est 3h45 avec entracte,
oui.
Mais moi, je me suis laissé prendre par la main du récit et de voir vraiment... Ben, c'est vraiment intéressant de voir cette évolution, en fait.
Oui.
Et je sais que certains ont été parfois un petit peu frustrés après les deux premières parties, qui sont vraiment très liées. Et la troisième nous ouvre des perspectives aussi. Le dispositif change, puisqu'on est à plusieurs, oui, sur le plateau également. J'ai envie de dire que le théâtre naît aussi,
oui,
ne serait-ce que dans ses outils utilisés, etc. Le jeu de comédien, le jeu de l'acteur, parce qu'elle dit, moi, je ne suis pas actrice, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'acteur également, puisque cet homme dont elle parle était acteur.
Était acteur.
Voilà.
Okay.
Voilà. Ça s'appelle donc Pieuvre, et on est vraiment emmené dans les tentacules d'une enquête posée, ouais, par Françoise Bloch. C'est assez prenant, ça nous questionne sur plein de choses, ça remue des choses aussi, et ça s'appelle Pieuvre 1, plus 2 et 3. C'est à voir jusqu'au 3 avril au Théâtre National, il y a très peu de séances, elles sont complètes, mais on m'a répété...
On peut toujours tenter sa chance.
Quand j'y suis allé, on m'a dit, voilà, 5 places étaient encore libres finalement,
oui,
et donc... Un petit coup de chance, voilà. Et à mon avis, on va revoir ça autrement ou avec d'autres pièces encore du puzzle.
Ou peut-être d'autres tentacules,
voilà,
en tout cas.
Voilà, toutes les informations sur théâtrenational.be. Vous aurez toutes les informations. Et c'est en effet, à chaque fois, vous aurez les trois pièces. Hein,
oui.
On ne choisit pas le morceau. C'est essentiel pour moi pour bien comprendre aussi les enjeux.
C'est vraiment
une
démarche, Bloch, et une expérience théâtrale.
Et c'est un spectacle sur son théâtre à elle, sur sa méthode,
oui,
qui a été mise à mal par ce sujet finalement.
Bien sûr, voilà. Parce qu'on échappait un petit peu la sociologie. Est-ce que la sociologie peut tout aborder,
voilà,
aussi
De manière aussi directe aussi, voilà,
oui,
et c'est ça. Voilà, donc pour Pieuvre, deuxième étape de notre parcours scénique, Elisabeth, c'est,
oui,
au théâtre Le Public,
voilà,
avec un titre Peu importe, une pièce de Marius von Mayenburg.
Voilà, alors c'est sur le papier, on y va, hein, parce que quand même, interprétation, Stéphanie Blanchot, Itzik Elbaz, peu importe quoi, moi j'y vais en tout cas, Michael Delaunoy à la mise en scène et à l'écriture Marius von Mayenburg.
Mm-hmm.
Alors, de quoi s'agit-il? D'entrée de jeu, on est dans la petite salle, donc tout en bas au public, on a une scénographie qui est très simple, qui nous plonge dans le salon et on va découvrir un couple qui va arriver. Bon, on aurait pu s'en douter déjà. Et puis, ils arrivent l'un et l'autre par des côtés différents, hein, un court, l'autre à jardin, et immédiatement, ils se mettent à s'engueuler. Voilà, comme ça, d'emblée, sans chauffer la colle, on y va. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette première dispute? Ben, c'est tout simplement que la femme est revenue d'une semaine d'absence professionnelle, d'un voyage professionnel, et elle est revenue de manière un peu étonnante avec un cadeau. Et ce cadeau est un élément qui va être central de toute la pièce, parce que, contrairement à ce qu'on peut en attendre, son mari ne va pas se précipiter pour ouvrir ce cadeau, puis dire « Oh, merci beaucoup, tu as pensé à moi, etc. » Non, ça rentre tout de suite dans l'engueulade, et on sent tout de suite que c'est un peu leur mode de fonctionnement, que c'est, mmh, un couple qui s'engueule un peu tout le temps. Alors, jusque-là, ben, ça va, on n'ouvrira pas le cadeau avant très très longtemps, on verra que le cadeau est évidemment tout à fait signifiant. On est parti sur ce mode dispute, et puis il y a comme une petite clochette comme ça, comme un petit noir, et la scène s'inverse. C'est-à-dire qu'on rejoue la même scène, mais cette fois, c'est l'homme qui est parti en voyage d'affaires, qui revient toujours avec le même paquet cadeau. Et cette fois, c'est la femme qui refuse de l'ouvrir. Et la dispute repart jusqu'au moment où il y a une petite variation. Et on est parti pour 4 tableaux où il y a à chaque fois la même structure de cette scène, cette prise de bec comme ça, qui dure tout le temps, qui est répétée puisqu'on réentend les mêmes répliques. Mais de temps en temps, il y a quand même quelque chose dans le récit qui avance, ouais. Une petite variation. Mais donc 4 fois en fait. Parce que c'est quand même une écriture assez subtile, Erik van Meyenburg,
Marius van Meyenburg, oui.
Voilà, est un des grands auteurs allemands qui est né en 1972.
Donc alors, on en a vu pas mal hein, de lui ici. On pense à Parasite, notamment au Théâtre de Poche. On pense à L'Enfant Froid, Eldorado, Martyr, Perplexe aussi, oui, voilà.
Oui, donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un, un auteur en vue. Il y a une écriture très subtile, un sens consommé de la structure, parce qu'il nous présente un texte très, très structuré. Alors, on a une mise en scène qui aussi est une mise en scène comme généralement, moi, je les aime bien parce que c'est une mise en scène d'un maquillage qui est bien fait. En fait, on finit par oublier le maquillage.
C'est Michael Delaunay qui signe.
Voilà, donc tout est délicat comme ça. Et puis, il faut quand même parler de l'interprétation parce que il y a vraiment beaucoup de nuances qui s'installent. L'un et l'autre ont l'énergie, tiennent le coup parce qu'on a quand même 1h35 de dispute. Il faut quand même y arriver. En plus, avec un texte qui est à peu près tout le temps le même et parfois un peu différent, ça doit quand même pas être tout à fait simple. Et alors, en plus de ça, il y a aussi une thématique. Il y a une thématique parce qu'on sent très bien qu'à travers les 4 scènes qui sont jouées, il y a le problème de la répartition du travail au sein du couple et surtout de la place qu'on donne au travail, de l'équilibre entre le travail et la vie privée. Donc tout ce propos-là est amené de manière assez subtile. Et puis, y a cette petite réplique qui revient « peu importe ». Voilà, mais en même temps, c'est quand même un spectacle où il me semble qu'il manque peut-être quelque chose, parce qu'à un moment donné, l'attention flanche un peu, j'ai laissé traîner mes oreilles, comme d'habitude, un peu après, pour voir ce que les gens en avaient pensé, c'est vrai qu'on est très surpris au changement, etc. Et puis il y a ce petit creux, mais c'est pas un creux qui vient de l'énergie des comédiens, ni du texte qui s'effondre. Je me suis dit que peut-être c'était parce qu'on est dans un théâtre qui s'écoute, on a une partition qui est magnifiquement jouée, mais sur le plateau, finalement, il ne se passe rien, sauf dans les toutes dernières minutes où on ouvre ce paquet, mais ne comptez pas sur moi pour vous dire ce qu'il contient.
Peu voilà. Importe, Elisabeth.
Peu importe, voilà. Hein, oui, voilà.
C'est le titre de cette pièce de Marius van Meyenburg, mise en scène donc par Michael Delaunay avec Itzik Elbaz et Stéphanie Blanchou, à voir jusqu'au 2 mai au Théâtre Le Public dans la petite salle.
Et puis, c'est peut-être que c'est un tremplin pour effectivement réfléchir à la part qu'on laisse au travail, au loisir et tout ça.
L'art d'être grinçant de Marius van Meyenburg aussi. Hein.
Un petit peu quand même.
Un petit peu quand même, ça gratte. On se fait une petite pause musicale et on se retrouve pour se remettre de ses émotions. Voilà.
Oui.
À tout de suite.
À tout de suite. Dis,
c'est pour ça qu'on s'en sert. Est-ce bien à ça que ça sert, pour que l'on veuille le refaire? Pourquoi le faire, le refaire? Est-ce vraiment si populaire? Je me ferai volontaire si cette affaire est à refaire seule. Me voilà sans repère. Il n'y a plus de mystère. Je ne sais plus m'en défaire. Je me laisse choir, tombe par terre, ferme les yeux sur la misère. Il me rendra téméraire, efface les rêves et la colère d'une vie amère, ordinaire, en une éternelle croisière dans les rivières, sur la mer, oubliant toutes les guerres. Je me laisse choir, tombe à l'eau, ferme les yeux sur la misère. Si c'est à ça que ça sert, si c'est comme ça qu'on s'en sert.
Moitié du duo Ascendant Vierge, c'est Mathilde Fernandez que l'on écoutait à l'instant et qui, avec piano-voix, arrive en solo et toute autre voix musicale que ce qu'elle faisait avec son comparse, ou ce qu'elle fait avec son comparse Paul. On pourra la voir en concert ce vendredi 3 avril au Botanique, www.botanique.be. On est de retour sur Radio Campus dans la conspiration des planches et place à la comédie, s'il était grinçant avec le rire, en tout cas avec Marius von Mayenburg, il est beaucoup moins grinçant, il est beaucoup plus...
beaucoup plus
ouvert, on va dire,
plus doux, en tout cas.
Avec Drôle de couple au TTO, comédie de Neil Simon, comédie anglo-saxonne, qui a été ici réadaptée dans un environnement queer, plutôt gay, puisque sont toujours deux hommes qui se retrouvent dans un appartement, deux hommes que, je ne vais pas dire que tout oppose, ils se connaissent, ils sont amis, mais ils n'ont jamais vécu ensemble.
Ils n'ont pas les mêmes habitudes.
Non, il y a le bordélique qui accueille le maniaque, et ça va poser sur fond de divorce de l'un et de l'autre.
Ah oui.
Donc ça va être... la rencontre des contraires avec des intérêts qui se mélangent et pas vraiment finalement. Et donc ce couple, ben, par défaut un petit peu, ben, fait des étincelles dans justement ce qui les oppose et aussi dans les traumas, on va dire, des situations familiales de l'un et de l'autre. On a d'un côté, pardon, David, qui est déjà séparé depuis quelques années. On apprend qu'il est coparent d'un enfant qui est à distance. On est aux États-Unis, ils sont à New York. Son ex-compagnon et son fils sont de l'autre côté des États-Unis. Et de l'autre côté arrive donc Charlie, fraîchement séparé et tout à fait maniaque. Il nettoie tout ce qu'il voit, il dépoussière. Il fait la cuisine. Alors, dans la vie de Patachon de l'autre, ça fait un petit peu désordre, j'ai envie de dire.
Mais, oui, quelque part.
Et donc, voilà, ça va jouer beaucoup sur cette opposition, même si on sent qu'ils sont amis, mais que ça devient un petit peu compliqué.
Ouais.
Emmanuel Delerba et Antoine Guillaume viennent avec un humour qui se veut plutôt camp, qui joue sur les clichés de l'homosexualité aussi et de la culture homosexuelle, on va dire plutôt mainstream. Alors, ils vont aussi, toutes les deux, tenter de se remettre sur le marché de l'amour, on va dire comme ça, puisqu'ils vont viser deux frères qui habitent dans l'immeuble, tout jeunes, et qu'ils vont convier et qui vont tenter d'approcher, mais on sent que ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que l'intrigue, elle tient sur deux lignes. C'est... la comédie, c'est de la mécanique, c'est du dialogue et tout ça. Alors, on sent qu'il y a eu de l'application pour relancer un petit peu le dialogue et l'application avec une dose de Pink un petit peu dans ce dialogue et dans cette intrigue. Je trouve quand même que ça manquait de d'énergie, dynamisme, ça démarre un petit peu trop lentement et pour aboutir à une apothéose un petit peu trop rapide. Hein. C'est assez exigeant. Voilà. Donc c'est pas mon coup de cœur vraiment de la semaine, mais ils sont sympathiques, voilà. Mais ça, pour moi, ça n'est pas vraiment abouti que ce drôle de couple de Neil Simon, mis en scène par Nathalie Huffner, et dans une nouvelle donc adaptation française par Antoine Guillaume, qui partage la scène avec Emmanuel Delerpa, et on n'oublie pas Julien Becker, c'est Lucas Monton qui joue les fameux deux frères à séduire. Voilà.
Eh bien.
Une reprise, Elisabeth.
Mais oui,
je vais dire quand même que c'est au TTO jusqu'au 25 avril. Voilà.
Voilà, et moi je propose de vous emmener à la Comédie Club Voltaire à Woluwe-Saint-Pierre, si je ne m'abuse.
Oui.
Ça fait longtemps qu'on n'y a plus mis un pied. Mais on y redonne pour quelques dates, donc du 15 au 26 avril, La coiffeuse d'âme, qui est en fait un texte que l'on doit à Vélérène de Martelaire et Thierry Debrou, qui est un spectacle qui avait été créé au Parc dans une très jolie scénographie. Bon, c'est un peu l'habitude au Parc, mais c'était un spectacle de fin de saison. Donc, on sentait que la scénographie était peut-être un peu plus fixe, avec moins de retour. Et le propos, je ne vais pas vous le raconter trop non plus, mais c'est l'histoire d'une femme qui arrive, qui pousse la porte d'un salon de coiffure, où elle pense ne pas avoir rendez-vous, mais elle a quand même rendez-vous. Et elle va tomber sur une coiffeuse qui est totalement particulière, et c'est là que le titre du spectacle doit vous donner une indication. Une coiffeuse d'âme, elle ne coiffe pas que les quatre poils qu'on a sur le
caillou.
Crâne, c'est un peu autre chose. Et donc c'est un spectacle qui m'a laissé un chouette souvenir. Il est complètement décalé, on ne sait pas très bien où on est, on a même dans les costumes, mais en même temps tout est assez joli, assez beau. J'ai l'impression que là, j'ai des souvenirs de scénographie comme
mais
ça un peu à Art Nouveau.
Oui, c'est ça, tout à fait ce que
j'allais
dire.
Et donc, on est tout à fait dans un autre monde, et encore une fois, ça c'est un autre indice, mais j'ai gardé un beau souvenir de ce spectacle qui avait été assez court à sa création, et je suis contente de le revoir sur scène.
Mise en scène de Daphné Deurre dans un décor de Thierry Debrou, justement,
voilà.
Avec Cindy Besson, Petra Urbani et Anouchka Vintier à la Comédie Royale Claude Voltaire jusqu'au 26 avril
voilà,
pour cette coiffeuse d'âme.
Ben là, c'est peut-être un petit coup de cœur quand même de ma part. C'était quand même chouette.
Deux rendez-vous danse à vous donner également. C'est d'abord le festival Legs. On est en plein dedans, qui joue sur les deux sens qu'on peut donner au mot. Legs, c'est jambes, évidemment, un festival donc, de Charleroi Danse qui parle de danse, donc les jambes sont bien évidemment sollicitées, mais tout le corps est sollicité dans la danse.
Toujours.
Et l'est aussi parce que c'est sur l'héritage et sur la danse qui se penche sur sa propre histoire.
Ah, oui.
Et donc, on a toute une série de spectacles qui viennent mettre en avant soit une danse traditionnelle, soit un pas particulier, soit une revisite d'un répertoire classique. Bref, il y a toujours cette question d'héritage, de transmission qui arrive dans les propositions de ce festival qui est encore qu'on peut encore profiter dans divers endroits de Bruxelles jusqu'au 5 avril, tous les enseignements sur charleroidanse.be. Que dire sinon encore sur ce festival, c'est que mardi était présenté notamment et a été rendu hommage célébré la carrière de Félicette Chazeran, chorégraphe très connue notamment pour avoir amené la danse vers le jeune public. Après 40 ans, plus de 40 ans de métier, elle ne raccroche pas vraiment, on ne peut pas dire ça, mais en tout cas, elle a confié toutes ses archives à Contredanse. Et il y a une exposition qui est présentée à la Bellone encore jusqu'à ce vendredi. Et autre rendez-vous danse à vous donner, c'est aussi au Théâtre Marny, c'est le D Festival qui fait la place à la jeune création, aux chorégraphes émergents. Et c'est à découvrir encore pour quelques jours du côté du Théâtre Marny.
Il va falloir se dégourdir les jambes.
Mais oui, entrons dans la danse, j'ai envie de dire, Elisabeth.
Ouais.
Merci en tout cas, Elisabeth, d'avoir été encore avec nous cette semaine.
Merci à toi, Nico, et puis bonne planche à tous.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Oui.
Très belle semaine.
Bonne semaine. La Constellation.